Bonjour et bienvenue dans l'Onde Curieuse. La société dans laquelle nous vivons est depuis quelques décennies régulièrement secouée par des crises, des remises en question des modèles économiques, écologiques ou, comme actuellement, énergétiques. En agriculture, le modèle développé après la Seconde Guerre mondiale est aussi régulièrement décrié. Les agrobiologistes pointent du doigt la fuite en avant d'une agriculture industrielle qui, à coup d'intrants sur intrants ou de pesticides sur pesticides, réduit le vivant au néant. Il faut oublier ce modèle et oser une révolution agriculturelle. C'est en quelque sorte le message que fait passer depuis plusieurs années le biologiste et agroéconome Marc Dufumier. Il était, il y a quelques semaines, l'invité du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à Jaugeac et nous l'avons rencontré. Nous allons donc l'écouter, le retrouver dans quelques instants. Ce sera après les infos et le choix musical de l'Onde Curieuse. À Montpezat, la médiathèque présente aujourd'hui à 17h30 un film documentaire intitulé « Les semences du futur » en présence d'Honorine Perrineau, qui est réalisatrice de ce film, mais aussi biologiste. Dans ce documentaire, deux lobbyistes des semences nous font voyager dans leur univers scientifique pour créer de nouvelles variétés de plantes. Ils révèlent peu à peu leur stratégie par rapport au réchauffement climatique et leur vision opposée du rapport de l'homme à la nature. C'est en entrée libre, aujourd'hui 17h30. L'actualité autour de l'agriculture passe aujourd'hui par Montpezat, certes, mais aussi par Sassernin. En soirée, direction le pôle aménagement et développement, où aura lieu à 20h la projection échange autour du film « La part des autres », un documentaire qui pose un regard sur l'appauvrissement des producteurs et des consommateurs et qui interroge sur les conditions, d'un accès digne pour toutes et tous à une alimentation de qualité et durable. Voilà, une projection qui est organisée dans le cadre de la semaine Installation Transmission Paysanne en Ardèche. Et puis notons encore cette initiative de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. Celle-ci va présenter ce jeudi à Saint-Julien en Saint-Alban au parc Plané le futur espace Test agricole, un espace pour une agriculture locale. Réunion publique ouverte à tous, jeudi 18h. Comprendre la rivière pour mieux la sauvegarder, voilà le thème d'une conférence qui sera proposée ce vendredi à Saint-Martin-d'Ardèche dans le cadre de la Journée mondiale des fleuves et des rivières. Apron, alose, truite, fario et anguille, venez découvrir toutes les espèces qui vivent dans nos rivières et les menaces qui pèse sur celle-ci. Rendez-vous à 19h, c'est dans la salle de la bibliothèque de Saint-Martin d'Ardèche. Le jour de la nuit, 14e édition, c'est ce samedi 15 octobre, un rendez-vous pour sensibiliser à la pollution lumineuse et à la beauté du ciel étoilé, un rendez-vous qui invite communes et villes à éteindre les lumières, l'éclairage public, un geste complètement d'actualité et pourtant promu pour le jour de la nuit depuis 2009. Dans ce cadre, l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin organise une conférence samedi à 20h à la salle des fêtes de Chassier. Le thème, la pollution lumineuse, cause, conséquences et pistes de solutions. C'est un rendez-vous en accès libre. Ciné-débat ce soir à Tueil avec la Maison de l'Image dans le cadre d'Octobre Rose, projection du film documentaire Morcellement, projection suivie d'échanges avec deux des protagonistes du film, le docteur Julie Audigier et l'auteur Sébastien Joignez. Documentaire de création, il s'agit de donner à voir et à ressentir le parcours des personnes confrontées au cancer du sein dans une approche intime et subjective de ce qu'elles vivent. Tarif 5 euros, ce tarif unique. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Culture et Santé Ardèche. C'est à la Vesprade, Tueil, ce soir, 20h30. Un forum sur la santé mentale, ce sera vendredi après-midi à Aubenas, dans le cadre des semaines d'information en santé mentale. Le réseau Sud-Ardèche vous invite à ce forum pour notre santé mentale agissant sur notre environnement. Forum qui va se tenir de 14h à 18h au centre socio-culturel ASA. Est-ce que mon environnement influence ma santé mentale? Quels sont les liens? Eh bien, plusieurs stands et ateliers vous permettront de découvrir des ressources de notre territoire qui agissent sur l'environnement et sur la santé mentale. C'est un rendez-vous en accès libre. Le syndicat FO n'en démord pas, il demande au groupe Eiffage, leader dans le BTP et constructeur autoroutier, une augmentation des salaires. À l'image de Total qui affiche des bénéfices pharaoniques, le groupe Eiffage a augmenté en 2021 les dividendes de ses actionnaires, plus 24% selon FO, alors que les salaires auraient été augmentés de 8,8%. Un décalage qui irrite le syndicat en cette période de crise, puisque le groupe refuse toute nouvelle augmentation des salaires et vient de proposer une prime de 200 à 300 euros selon le brut des salariés. Une proposition indécente et déconnectée de la réalité, réagit le syndicat FO, qui promet un mois d'octobre noir si rien ne change. L'autre crise est à la pompe, l'essence commence à manquer, notamment pour les professionnels de la route et les services de sécurité. Et conformément à la demande de l'Élysée, eh bien depuis ce matin, il est interdit de remplir bidons et jerrycans dans les stations. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens jusqu'au 21 octobre inclus. On remarquera au passage la spéculation actuelle sur les prix des carburants qui ne peuvent mieux répondre à l'adage « tout ce qui est rare est cher », alors que les cours du brut sont bien moins élevés qu'au cœur de l'été. L'Assemblée citoyenne NUPES Sud-Ardèche appelle d'ailleurs à participer en nombre à la marche sur Paris prévue ce dimanche 16 octobre. Une petite vingtaine d'organisations politiques, syndicales et associatives ont lancé un appel pour une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique. L'appel porte notamment sur la hausse des salaires et des minima sociaux, le blocage des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, la taxation immédiate des super-profits ou encore la conversion vers une agriculture écologique. Des bus vont être affrétés au départ de Valence, Alès ou encore Lyon. Des prix solidaires seront pratiqués pour que toute personne souhaitant s'y rendre puisse y aller selon ses moyens financiers. Des informations sont disponibles sur le site marche16octobre.fr. 16 est à écrire en chiffres. Enfin, à Aubenas, pour information, eh bien, la ville organise en lien avec la DIR Massif Central une réunion publique demain à 19h au centre Étienne-le-Bourneau. Réunion qui concerne les futurs travaux de réalisation d'un giratoire au pin de Bernardy et la restructuration de la Nationale 102 dans la traversée de la plaine dite de la Ripa. Voilà pour l'info de ce mardi dans le Monde Curieuse. Dans un instant, nous retrouverons notre invité, l'agroécologue Marc Dufumier. Mais en attendant, voici le temps du choix musical de l'Onde Curieuse avec le retour de Stupeflip, Stup Forever est le nom du nouvel album complètement déjanté où l'on trouve de nombreuses perles que vous allez découvrir prochainement, pour certaines, sur nos ondes décalé. Parmi ces perles, un nouveau titre autour du shit si problématique pour Stupeflip, qui après avoir arrêté avec le titre « Depuis que je fume plus de shit », puis repris sur un autre titre « Je refume du shit », tout cela il y a déjà 20 ans, revient cette fois avec « Tellement bon ». Paf, une nouvelle rechute.
Je ne fais que d'une feuille, dans ma tête je sens les failles, je m'emmènerai dans mon cercueil, un petit bout de truc et de la taille, je suis devant mon ordi. Et le temps s'est arrêté, je fais que des tourneries et jamais ça va s'arrêter. Fumette qui frappe les groupes de rap, Digger des 90, Tierno qui fume 8-6, ça tourne en rond, ça n'a pas de sens. Paradis artificiel, tous les jours je fais du sale, s'arrêter c'est difficile, continuer c'est suicidaire. Faudrait que j'arrête de fumer des ouanges, putain mais c'est tellement bon. Camarade des goûts, je fouille partout. J'étais certain de l'avoir mis là. J'étais certain de l'avoir mis là. J'étais certain de l'avoir mis là. Mais en fait, il était là. Putain, super cool. J'enroule un gros. Ça fait pif pouf dans le ciel. Quand j'ouvre mon logiciel, me sens plus seul. C'est l'étincelle. C'est mieux que soul. Je trouvais l'universal. J'étais dans l'univers seul. Je suis l'ours color gold. Je suis dans l'universel.
Faudrait que j'arrête de fumer des ouanges. Putain, mais c'est tellement bon. Putain, mais c'est tellement bon.
Bien.
Faudrait que j'arrête de fumer des
pas de musique sans le shit-in. Toute la journée dans le shit-in. Qu'est-ce que je ferais sans le shit-in? Je sers à rien sans le shit-in. Je me sens pas bien sans le shit-in. Tout paraît fat sans le shit-in. Je m'amuse pas sans le shit-in. Je parle pas sans le shit-in. Je comprends pas sans le shit-in. Je respire pas sans le shit-in. Je t'abandonnerai pour le shit-in. Je me castrerai pour le shit-in. Je me suiciderai pour le shit-in. Je t'écraserai pour le shit-in.
C'est pas bien.
Faudrait que j'arrête de fumer des wash, putain, mais c'est tellement bon.
C'est tellement bon. Le nouvel opus Stup Forever est sorti le 16 septembre dernier. Je ne peux que vous le conseiller. Il est truffé de samples ingénieux, de paroles bien déjantées et de quelques rappels aux années 80-90 avec notamment le titre dans ton baladeur. Marc Dufumier est biologiste et agro-écologue. Présent le 18 septembre dernier à Jaujac à l'invitation du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, il a présenté à un public très nombreux les intérêts, selon lui, d'un retour à une agriculture beaucoup plus respectueuse du vivant. Une agriculture durable pour une alimentation saine et une revalorisation du travail d'agriculteur. Il plaide pour une agriculture inspirée de l'agroécologie, terme que Marc Dufumier nous définit en introduction de cette rencontre.
Eh bien l'agroécologie, alors pour le commun des mortels, beaucoup pensent que c'est une pratique nouvelle, paysanne, comme il y a l'agriculture biologique, la permaculture, l'agriculture de conservation, et que l'agroécologie serait un nouveau bréviaire. Et je pense que c'est pas ça du tout. De mon point de vue, l'agroécologie, c'est plus une source d'inspiration. Il y a des formes d'agriculture qui relèvent plus ou moins de l'agroécologie, de cette source d'inspiration. Et cette agroécologie peut être présentée, y compris, comme une source d'inspiration fondée sur des bases scientifiques. C'est-à-dire que l'agroécologie peut être présentée comme la discipline scientifique des agroécologues, de ces gens qui essaient de rendre intelligible, pour le plus grand nombre, le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, de ces écosystèmes qui ont été aménagés par les agriculteurs, donc qui ne sont pas complètement naturels, mais qui méritent d'être étudiés pour qu'effectivement les agriculteurs puissent en faire le plein usage au profit du plus grand nombre. Mais je dirais c'est une source d'inspiration pour modifier les pratiques agricoles avec y compris des fondements scientifiques, c'est-à-dire la photosynthèse, la fixation biologique de l'azote et ce genre de choses, ce qui n'exclut pas que cette même discipline, en regardant ce que faisaient nos anciens, on est capable de récupérer des variétés, des races animales, des savoir-faire paysans d'autrefois, qui étaient des résultats de recherche empirique cette fois, mais qui ont été transmis même parfois par des dictons, des discours parfois même peut-être un peu ésotériques auxquels le scientifique ne comprend rien. Mais oui, je pense que l'agroécologie, c'est une source d'inspiration qui permet et de récupérer ces savoir-faire anciens, de comprendre pourquoi ça s'est maintenu, pourquoi éventuellement ça s'est disparu, et de repérer après le fonctionnement de ces écosystèmes, les interactions qu'il y a entre le milieu physique et les êtres vivants, entre les animaux et les végétaux, entre les espèces domestiques et les espèces sauvages, et de comprendre que tout ça est un tout, c'est un écosystème, certes fragilisé pour les besoins d'agriculture, mais justement, on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne pour éviter de faire des dégâts et au contraire, l'aménager au service du plus grand nombre.
Alors bien sûr, ceux qui vont entendre ça pourront peut-être se dire « Ah, on est encore en train de regarder dans le rétroviseur plutôt que d'aller droit devant ». Vous dites que vous êtes appuyé par exemple sur des dictons, des choses de ce type, qui étaient des recherches empiriques. Aujourd'hui, ce sont des recherches scientifiques. C'est-à-dire qu'on a repris peut-être ce qu'on connaissait de nos aïeux et aujourd'hui, on a fait des recherches scientifiques qui ont prouvé en fait qu'ils avaient plus que raison.
Alors, l'agroécologue est un scientifique qui lui étudie les fondements même de fonctionnement de ces agroécosystèmes et de façon donc totalement différente de celle des paysans qui, eux, finalement, faisaient des expériences, ça a été mémorisé dans leur tête, ça a été transporté par des dictons. Aujourd'hui, on a des moyens de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, par des voies scientifiques, et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Mais par contre, l'agroécologue aujourd'hui, qui essaie de mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes anciens et aujourd'hui, à la différence de l'agronome un peu normatif, qui savait ce que c'était qu'une variété améliorée, qui savait que c'était une mauvaise herbe, qui savait ce qui était le bien, qui savait ce qui était le mal, maintenant là, l'agroécologue, il étudie avant de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et on découvre que c'est beaucoup plus compliqué. Et éventuellement, on est obligé de revenir à des principes fondamentaux de la biologie. Alors je vous dis tout de suite, c'est du béaba de la biologie, mais puisque l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil, la question qui peut se poser, comment utiliser au mieux cette énergie renouvelable et gratuite par une couverture végétale la plus totale, la plus permanente possible. On sait que cette énergie, qu'on appelle un peu hydrate de carbone, vous savez, le sucre, les lipides et autres, la ration carbonée de notre ration, la plante trouve le carbone dans le gaz carbonique, gaz à effet de serre pléthorique. Du coup, la question de comment faire un usage intensif de ce gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer le sucre, les lipides, l'amidon, et éventuellement séquestrer du carbone dans l'humus des sols, voilà un travail d'agroécologue. Il y a des savoir-faire anciens qui nous montrent parfois comment on peut faire, mais c'est clair que la science permet de progresser pour qu'on séquestre encore davantage de carbone dans le sol, surtout qu'on découvre aujourd'hui qu'il faut aussi un peu d'azote et ce genre de choses. Et si on veut ne pas trop émettre de protoxyde d'azote, fabriquer des protéines riches en azote, sans mettre d'engrais azotés de synthèse, très polluants et très contributeur au réchauffement climatique, le protoxyde d'azote, ben les légumineuses, alors les légumineuses, il y a des savoir-faire anciens, mais évidemment, aujourd'hui, on peut mieux comprendre comment ça fonctionne, comment des microbes s'incrusent dans la racine, utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante, interceptent l'azote, la refilent à la légumineuse, et de regarder la biodiversité, le fonctionnement. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, y compris pour aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles, on utilise des champignons mycorhiziens. Ben, je vais vous dire, nos ancêtres ne savaient pas ce qu'étaient des champignons mycorhiziens. Ils connaissaient la truffe, parce que c'est bon. Mais savoir quel champignon qui s'incruse dans la racine de l'arbre, qui s'incruse dans la racine de la plante annuelle, va aller chercher parfois des éléments minéraux en sous-sol, quand il s'incruse sur une racine d'arbre, et la roche mère est altéré, libère des éléments minéraux, le champignon vient l'intercepter, le redonne à l'arbre, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille de l'arbre, la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable, la couche superficielle. Et alors aller chercher ces éléments minéraux coincés dans les argiles, écoutez, nos grands-mères, nos grands-pères ne savaient pas tout ça, mais on redécouvre parfois avec des fondements scientifiques le bien fondé de certaines pratiques paysannes, on redécouvre aussi parfois pourquoi certaines pratiques anciennes ont disparu, parce que c'était pas totalement fondé justement, et du coup oui, il faut surtout pas opposer les résultats de recherche empirique paysanne de longue date avec des recherches extrêmement savantes aujourd'hui, hein, l'écologie des sols, la microbiologie des sols, les interactions entre tous ces éléments qui sont tantôt des microbes, tantôt des champignons, tantôt des bactéries, des champignons saprophytes ou des champignons mycorhiziens, avec évidemment il y a des vers de terre, il y a des clopoles, il y a des colamboles, et puis dans l'atmosphère il y a, n'oubliez pas, sur les hautes tiges il y a des mésanges qui vont s'attaquer aux larves de Capocaps, et du coup peut-être qu'on ne sera pas obligé de mettre des pesticides pour ne pas trouver de vers, de petits vers dans nos pommes. Voilà, et là la science agroécologique, les agroécologues donc, qui inspirent beaucoup l'agroécologie, oui, sont d'une très très grande utilité.
Est-ce qu'il faut, je sais que vous n'aimez pas, je crois, mettre d'un côté une chose, de côté l'autre, est-ce qu'on peut différencier justement l'agroécologie et l'agriculture moderne, je vais dire simplement moderne, vous avez parlé tout à l'heure de pesticides, on sait aujourd'hui tout le mal que cela peut faire, est-ce que c'est une opposition ou est-ce que les deux peuvent travailler ensemble?
Alors il y a une opposition, mais déjà les agricultures qui vont s'inspirer de l'agroécologie, comme c'est très novateur, on va pouvoir les qualifier de modernes. Et ce qu'on appelle peut-être un peu abusivement agriculture moderne est une agriculture qui est déjà peut-être un peu usée, un peu obsolète. Hein. Elle emploie des pesticides, mais il y a des insectes résistants aux pesticides qui commencent à proliférer, on ne sait plus trop comment faire, on fait une deuxième molécule pesticide, une troisième molécule pesticide, c'est de la fuite en avant. Et en fait, ça, c'est peut-être justement désuet. Et ne pas utiliser les prédateurs des ravageurs, mais utiliser plutôt des produits en cides. Et cides, ça extermine. Mais du coup, il y a toujours des mutants résistants. Et puis, quand on s'attaque à un insecte, est-ce que le produit en cides n'en a pas attaqué un autre? Alors ça, soyons clairs, hein, c'est du passé. C'est vraiment dérisoire. Mais du coup, je ne la qualifie pas de moderne, hein, cette agriculture-là. Je la qualifie plutôt, au contraire, d'industrielle. Si elle s'est inspirée de processus industriels, il faut produire à grande échelle pour diminuer le coût. Du coup, on va mécaniser, motoriser, robotiser, droniser même aujourd'hui. On va remplacer des gens par des machines. On a créé du chômage. Ça, la création de chômage, oubliez, je pense que c'est vraiment désuet. Il faut abandonner ça. Hein. Donc, c'est vraiment... Il faut passer une agriculture plus moderne, plus intensive en emploi, si vous en êtes d'accord. Mais du coup, cette agriculture-là, on voit bien qu'elle est à bout de souffle. On voit bien que les filières bas de gamme, les poulets de moins de 40 jours, même le blé à 90 quintaux, mais qui exige énormément d'engrais, de pesticides, etc. Être compétitif avec un blé ukrainien ou russe quand il n'y a pas de guerre, c'est vain. La betterave à sucre compétitive avec la canne à sucre sur une ferme de 40 000 hectares au Brésil sous le soleil, c'est vain. La poudre de lait en Bretagne pour être compétitif avec le lait Nouvelle-Zélande pour la Chine, c'est vain. Tout ça, c'est dérisoire, d'où les faibles revenus des agriculteurs, d'où le taux de suicide aujourd'hui dans la profession agricole. Là, cette agriculture-là, je pense qu'on ne peut pas la qualifier de moderne. Elle est vraiment désuète. Elle était même très trompeuse aujourd'hui. Je comprends que des gens très endettés, parce qu'ils auront investi un robot de traite, ne peuvent pas diversifier leur système, ils sont obligés de faire que du lait. Celui qui a investi dans une moissonneuse batteuse n'aura peut-être pas envie de mettre du lin dans sa rotation, parce qu'il faudrait un matériel spécifique. Donc il y a bien une inertie qui existe pour passer à autre chose et à une agriculture moderne et respectueuse de l'environnement. Je veux bien qu'il y a une inertie liée à des niveaux d'endettement, peut-être aussi à des manques de formation, peut-être à une incompréhension d'ailleurs scientifique de ce pourquoi il faudrait absolument aujourd'hui changer. Opérer une vraie révolution technique, ça ne peut pas être un grand soir. Ce sera quand même une transition, ça demandera plusieurs années pour que l'immense majorité des agriculteurs soient convaincus, aient les moyens et que ce soit de leur intérêt. Il faudra bien qu'on parvienne par des arguments économiques, subventions, taxes, prix incitatifs, prix dissuasifs, par peut-être quelques interdictions quand même pour certains pesticides, mais le moins d'interdictions possible, parce que c'est pas une écologie punitive, hein, il va falloir aussi qu'il soit incitatif à faire autre chose, c'est la rémunération de l'agriculteur. Et donc oui, il faut changer complètement notre politique, et là je vous dis tout de suite, il faut vraiment qu'on va penser une politique agricole nouvelle pour promouvoir des agricultures modernes, inspirées d'une agroécologie scientifique, mais qui récupère bien des savoir-faire, des variétés tolérantes aux insectes et des choses issues d'avant. Et ce genre de choses, cette agriculture moderne, il va bien falloir la promouvoir, et c'est bien toute notre agriculture industrielle qui va devoir changer. Et là où souvent on me dit il ne faut pas les opposer, on me dit il y a bien une agriculture bio plus chère parce que plus artisanale, plus exigeante en travail, il faut bien le rémunérer, donc le produit sera plus cher, donc pour les gens qui peuvent acheter il y aura des produits bio et sains, et puis pour les autres il faut quand même une alimentation au moindre coût monétaire, sauf que vous aurez des perturbateurs endocriniens, vous aurez des antibiotiques, et ça c'est pas bon pour la santé. Et bien moi l'idée qu'il y aurait une agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes et une agriculture industrielle bourrée de résidus pesticides, d'antibiotiques et des gens qui vont développer des antibiorésistances parce que c'est des couches modestes, moi ça m'insupporte. Donc oui, l'opposition entre les deux, elle mérite d'être soulignée, surtout pour dire c'est bien toute notre agriculture qui va devoir changer en s'inspirant d'une source d'inspiration que j'appelle l'agroécologie et qui a des fondements scientifiques.
Oui, et que vous n'hésitez pas à dire qu'on va... On va vers une révolution agriculturelle, presque, j'oserais dire.
Alors, c'est une révolution agricole, effectivement, et y compris parfois culturelle, et culturelle. Je pense qu'il y a un peu une révolution culturelle, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, l'immense majorité des agriculteurs, et même des consommateurs, pense un peu, l'agriculture moderne, c'est quand même la chimie, quoi. L'agriculture moderne, on simplifie, on spécialise, monoculture, monoélevage, à un endroit la viticulture, aux autres le lait, à l'autre les pailles, on ne met plus les animaux sur la paille, on fait plus de fumier, il y aura du lisier, et vous nous ennuyez quand vous commencez à dire que le lisier apporte des algues vertes, fertilise les algues vertes sur le littoral breton. Alors, ah, ces amis, non, c'est pas ça du tout. Et donc, il y a bien une révolution culturelle pour qu'on comprenne, non, il y a bien des fondements scientifiques, même si c'est vrai qu'on récupère des savoir-faire anciens, même si c'est vrai qu'il m'arrive de dire on va remettre des haies, on va remettre les animaux sur la paille, on va refabriquer du fumier, mais attention, l'agriculture moderne de demain, on va inoculer des champignons mycorhiziens, on va faire un savant mélange d'insectes prédateurs, des ravageurs, et comme ça il y aura moins de ravages, on va essayer, y compris sur des variétés nouvelles qui ne sont pas celles de nos grands-parents, mais en prenant des principes d'une variété qui évolue et moins sensible aux insectes piqueurs suceurs, parce que les pucerons ont eu des difficultés à piquer et sucer parce que la variété est évolue. On va chercher et sélectionner peut-être des variétés lisses pour que quand le papillon de poisson neuf il tombe tout de suite à terre, il n'y a pas de développement de larves sur la feuille. Alors c'était des savoir-faire de sélection empirique autrefois chez nos grands-parents. Mais aujourd'hui, on peut très bien raisonner scientifiquement maintenant de nouvelles variétés, mais qui portent ces caractéristiques-là. Puis maintenant, même on sait, figurez-vous, la science a progressé, que certaines variétés à feuilles lisses tolèrent la présence et de chenilles, enfin de papillons, mais parce que quand le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe à terre, et aux insectes piqueurs suceurs, parce qu'on sait que dans le petit trou qu'a occasionné le puceron, l'insecte piqueur suceur sur la plante, par ce petit trou se dégage un gaz volatile qui attire la coccinelle qui s'attaque à l'insecte piqueur suceur. Tout ça, nos parents ne le savaient pas. C'est peut-être le produit d'une longue évolution auquel ils ont participé, mais maintenant, cette compréhension scientifique qu'on a de choses bien fondées, eh ben, je vais vous dire, ça peut faire considérablement progresser les choses. Oui.
Alors, bah, pour progresser, il faut avoir l'appui de tous. Alors, on peut avoir l'appui du consommateur, on peut avoir l'appui de l'agriculteur, l'appui des scientifiques, l'appui... Mais il y a toujours quand même, on l'a vu dans la conférence que vous avez donnée, dans les questions, tout de suite, il a été, dans ces questions qu'on vous a posées, il a été question justement des moyens financiers. Parce qu'on a en face aujourd'hui, dans une agriculture que vous dites dépassée aujourd'hui, encore des grands groupes. Et ça, comment faire pour imposer? Est-ce qu'il faut imposer à un moment? Comment y parvenir? Ça a été quand même l'une des grandes discussions. Alors, on ne pourra pas tout détailler ici, mais c'est vraiment l'un des freins principaux aujourd'hui à l'agroécologie.
Alors oui, il n'y a pas que la révolution culturelle, mais il y a sur le plan économique des choses très concrètes à faire. Il est reproché à ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie d'être trop exigeantes en travail. Et du coup... On fait un usage intensif de ce qui ne coûte rien, le soleil, le gaz carbonique, l'eau de pluie, alors il faut gérer ça, l'azote de l'air pour faire des protéines. On utilise au fond des ressources qui sont gratuites, certaines sont pléthoriques ou même renouvelables. Et du coup, pourquoi le produit est-il plus cher et pourquoi faut-il rémunérer mieux l'agriculteur? C'est parce que c'est exigeant au travail. En fait, à l'opposé de l'agriculture industrielle, c'est pour ça que je parle d'une agriculture artisanale, bichonnée, soignée, plus diversifiée, plus résiliente, on est bien d'accord, tout ça c'est très vertueux, mais on lui reproche d'être trop exigeante en travail et on ne parviendra pas à promouvoir ces formes d'agriculture si on ne rémunère pas correctement. Et là, on est dans une question fondamentalement économique, comment mieux rémunérer le producteur qui pratique des agricultures relevant de l'agroécologie. Alors on voit bien déjà qu'une des façons de faire, ben, c'est un peu comme l'agriculture biologique, c'est-à-dire on change nos systèmes de production, c'est plus exigeant en travail, mais on va garantir aux producteurs une alimentation plus saine, parce qu'on va labelliser notre produit bio, il y aura une certification par une tierce partie pour vérifier si nos pratiques sont vraiment vertueuses et conformes à la qualité sanitaire des aliments, et évidemment des gens plus riches sont prêts à acheter des produits bio, au nom de leur intérêt privé, hein, je veux dire, avoir une alimentation plus saine, et souvent aussi, je ne vous le cache pas, meilleur d'un point de vue gustatif, parce que souvent les variétés anciennes ont été sélectionnées sur le goût, et ça va de pair très souvent. Et donc oui, il y a des gens qui sont correctement rémunérés en pratiquant une agriculture biologique, quand il n'y a pas trop de crises, éventuellement de surproduction, ça peut arriver, hein, conjoncturellement quand même, hein, mais ils sont correctement rémunérés grâce au prix qu'est prêt à payer un consommateur qui a un pouvoir d'achat suffisant. Mais effectivement, ça ne peut pas suffire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, il y a des couches au niveau de revenus modestes, qui doivent quand même avoir accès à des bons produits issus d'une agriculture très différente de l'agriculture bourrée de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones, hein, soyons clairs. Donc comment y arriver? Eh bien, on sait que ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie sont conformes à l'intérêt général, pas seulement pour la qualité sanitaire et gustative du produit, ça c'est plutôt l'intérêt du consommateur, mais parce que ça séquestre du carbone dans les sols, ça émet moins de gaz à effet de serre, hein, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ça rediversifie les écosystèmes et donc ça sauve toute une série de pollinisateurs, d'insectes qui sont très utiles dans la biodiversité, hein, donc ça permet aux écosystèmes, aux agroécosystèmes d'être plus résilients face aux aléas climatiques, peut-être même que certaines de ces pratiques agricoles permettent de résister à la sécheresse, permettent éventuellement de résister aux inondations, moins d'inondations dans la vallée parce qu'il y avait des haies, parce qu'il y avait un tapis herbacé, ou il y avait en tout cas une couverture végétale quasi permanente qui a ralenti les cours d'eau. À partir du moment où ces formes d'agriculture rendent un service ou des services d'intérêt général, ben je pense que c'est un peu contribuable de payer. Et vous savez que déjà le contribuable paye pas mal d'impôts pour subventionner l'agriculture. Sauf que ces subventions qu'on dit de la politique agricole commune sont plutôt proportionnelles à la surface et non pas en rémunérant le travail et le supplément de travail pour une agriculture de qualité. Donc je pense qu'on pourrait éventuellement réorienter ce qu'on appelle les subventions, les aides, ce qui est d'ailleurs péjoratif, pour un agriculteur, se sentir mendiant, vous avez besoin de subventions, on va vous aider, ah, il y a une grêle, on va vous aider, ce genre de choses. Non, on va vous rémunérer On sait que c'est du travail en plus, pour pratiquer une agriculture qui sera plus résiliente, plus diversifiée, donc y compris quand il y aura une grêle, ben, tout votre revenu ne sera pas affecté, ce sera plus résilient, vous n'aurez pas tout perdu. On va vous rémunérer pour le surtravail, à quoi correspondent les techniques inspirées de l'agroécologie. On sait que c'est plus de travail, c'est plus soigné, plus bichonné. Ben, écoutez, voilà, on peut imaginer dans tel endroit, quelles techniques seraient les plus à même de séquestrer du carbone. Est-ce que c'est remettre les animaux sur la paille? Est-ce que c'est remettre des haies? Est-ce que c'est un bon assemblage dans la prairie entre les légumineuses et graminées, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est des choses très techniques. À quel prix êtes-vous prêt à mettre en place ces techniques-là qui vont nous séquestrer du carbone dans les sols, qui vont éviter l'érosion des sols, qui vont éviter les inondations dans la vallée et qui sera conforme avec les accords de Paris de la COP21. Mmh. Et ben, voilà, dites-moi le coup. C'est un peu comme quand le consommateur négocie un bon fromage. À quel prix êtes-vous prêt à un fromage, voilà, et tout. Ben, la personne dit, écoutez, moi, c'est plus de boulot. Mon fromage d'appellation contrôlée, excusez-moi, faudra le payer un peu plus cher. Et ben là, l'agriculteur nous dit, moi, je ne peux pas faire en dessous de ce prix-là. Et on se met d'accord sur un prix par la voie contractuelle. Donc un agriculteur droit dans sa botte, par contrat, il rend service d'intérêt général. Là, il est fier parce qu'il est correctement rémunéré. Il bosse pour la nation, il bosse pour l'intérêt du plus grand nombre, la qualité sanitaire, mais aussi l'adaptation au réchauffement climatique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, donc l'atténuation de ce dérèglement climatique. Eh ben, je vais vous dire, on aurait des agriculteurs. Alors ça peut être aussi, on remet des légumineuses, ça ressuscite des abeilles, des pollinisateurs, ça permet aussi, y compris c'est un rôle sur l'humus, mais plus grande biodiversité, et puis surtout moins d'engrais azotés de synthèse, donc moins de consommation de gaz naturel russe, moins d'émissions de protoxyde d'azote. C'est conforme à l'intérêt général, moins de pollution de la nappe phréatique avec des nitrates, c'est conforme à l'intérêt général. Ben, pareil, je demande dans... Voilà, on discute, à quel prix êtes-vous prêt à remettre telle ou telle légumineuse dans vos assolements, dans vos rotations, dans vos assolements de culture? À ce prix-là, top là, je vous paye. Et on vérifie juste que le contrat est respecté. Et du coup, vous aurez des gens fiers. Voilà. Et on peut faire ça aussi avec ce qu'on appelle parfois les infrastructures écologiques, les haies, vous savez, mais les haies avec la couche herbacée, la couche arbustive, les hautes tiges. Avec ça, on peut faire du bois ravel fragmenté, fertiliser les sols, mais ça peut héberger des mésanges qui s'attaquent aux champignons de nuit, moins de larves de capocaps. Ça, bon, on abandonne les insecticides et on a des pommes sans petits vers de terre et bio, sans pesticides. C'est une technique d'intérêt général. Ben écoutez, dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre ces infrastructures-là, des nichoirs à chauves-souris ou des lieux à chauves-souris, hein. En tout cas, il y a des quantités de choses à faire, mais qui n'existeront que si on rémunère l'agriculteur pour le service rendu, service environnemental d'intérêt général. C'est plus des aides, c'est plus des subventions, c'est vraiment une rémunération à la hauteur du travail. Vous le méritiez parce que vous avez bossé. Et y compris, ça permet d'installer, éventuellement de créer des emplois, d'installer des jeunes dans les fermes. Ça permet même, je ne vous cache pas, dans certains lieux, que chacun travaille peut-être un peu moins, moins pénible, mais à plusieurs, en solidarité. Et quand dans une ferme, même une grande ferme par exemple, dans le bassin parisien, excusez-moi de parler du bassin parisien, mais quand une ferme céréalière commence à intégrer un élevage de brebis, bon, bah, y a un travail de plus pour l'élevage de brebis, la traite, et puis ensuite la transformation fromagère, il y a encore un emploi de plus. Bon, souvent c'est transformation fromagère, circuit court, commercialisation directe. Ben voilà que dans une ferme qui paraissait un peu grande, là les 250 hectares, on était seul, maintenant on est trois. Et puis je vais vous dire, l'astreinte de la traite, certes, elle existe le matin, le soir, mais c'est substituable. On peut prendre des vacances parce qu'on est à trois et que tout le monde sait faire la traite. Et du coup, c'est très important, hein, quand on dit, c'est vrai qu'il faut rémunérer ce supplément de travail, mais il faut aussi alléger la pénibilité du travail. Alléger la pénibilité du travail, c'est pas renoncer. Moi, j'ai vu des robots solaires faucher l'herbe entre des rangées de vignes à Saint-Émilion. Je vous assure, on ne désherbait pas. C'était conforme à l'agroécologie. Hein. L'herbe empêchait l'eau de dévaler. L'herbe aidait presque à l'infiltration de l'eau dans le sol, parce que l'herbe sèche, quand la racine disparaît, ben, y a une galerie. Donc c'était conforme à l'intérêt de l'agriculteur et du plus grand nombre. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle prolifère trop, il ne faut pas qu'elle monte en graines, donc qu'elle fleurisse et monte en graines, il faut donc la faucher. Moi, j'ai vu un petit robot solaire qui se réveille le matin avec le soleil, il se couche la nuit et il ne bouge pas pendant avec la seule lumière de la lune, et il fait son boulot, il fauche, on entend très peu. Quand on a été chercher ça, ça a été géolocalisé sur l'écran de son portable. Donc je ne suis pas en train d'opposer des choses qu'on récupère de nos grands-mères, de nos grands-parents, excusez-moi, à des techniques hyper modernes, mais par contre, qu'on pense, alors chimisation, il faut être très clair, il ne faut pas que ce soit des produits en cide, on n'éradique plus, là par contre il faut savoir évincer tout ça, mais quand on pense mécanisation, robotisation et autres, il faut s'interroger, est-ce que c'est pour remplacer des gens par des machines et créer du chômage? Ça, non, Par contre, est-ce que ça permet au contraire de créer des emplois, d'installer des jeunes dans l'agriculture, soit fils d'agriculteur, soit hors cadre familial, avec une agriculture qui n'est pas trop pénible, parce que le travail du fauchage d'une herbe qui était considérée comme mauvaise et qu'aujourd'hui on construirait entre des rangées de vignes, ce serait trop de travail si on devait le faucher à la main, eh bien écoutez, moi si ça permet de créer de l'emploi, la mécanisation n'est pas toujours contre l'emploi. Attention, il n'y a pas de dogme hein, quand on s'inspire de l'agroécologie. Hein. C'est parce qu'on observe les choses, on essaie de comprendre la complexité, on essaie de comprendre le fonctionnement, on essaie de comprendre les interactions entre le social, l'écologique, le technique, et à l'intérieur de l'écologie, le domestique, le sauvage, le physique, le vivant et ce genre de choses. C'est parce que justement on essaie de comprendre tout ça, tous ensemble, et là-dessus, les expériences paysannes, les expériences paysannes d'aujourd'hui, hein, de paysan à paysan, on peut progresser, et pas forcément avec l'appui d'un agronome, hein, je veux dire, ça peut progresser, hein. Faut vraiment pas désespérer. Oui, il y a moyen. Mais par contre, vous parliez des lobbies, ça leur déplaît. Effectivement, il faudrait qu'auprès des ministres, toutes ces expériences réussies, tous ces scientifiques qui sont capables de montrer qu'il y a des fondements scientifiques à ces formes d'agriculture, aient un peu plus de poids que des lobbies qui défendent. Alors je vous dis tout de suite, les lobbies en général, ils parviennent à emporter le morceau pour défendre des emplois à court terme. Si on ne fait pas comme ça, c'est des abattoirs ici qui vont disparaître. Je pense à la Bretagne avec les poulets bas de gamme autrefois. Et au nom de l'emploi à court terme, il faut maintenir les filières telles qu'elles sont. Alors que précisément pour l'emploi, c'est les systèmes agricoles et même agro-industriels. Hein. Un poulet de louer, je vous dis tout de suite, au kilo de poulet crée plus d'emplois qu'un poulet bas de gamme de moins de 40 jours. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais si on veut sauver des emplois à long terme, il faut aussi ne pas céder à la pression des lobbies qui eux mettent en place. Ben oui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi et tout, ce qui sont des questions très vraies. Hein. Il faut résoudre ça. Je pense que le rôle de l'État, c'est à tout niveau, hein, c'est la commune, c'est le département, c'est la région, c'est la nation. C'est éventuellement la politique agricole européenne. Il faut qu'à tous les niveaux, nous œuvrions pour que le travail supplémentaire, les emplois supplémentaires créés par l'agriculture qui relève de l'agroécologie soient correctement rémunérés, quitte parfois à déplaire effectivement à des gens qui vous diront tout le contraire, remplacer les gens par des machines, les gens qui désherbaient, remplacez-les par des désherbants, et tout ce genre de choses dont on sait que les coûts environnementaux, les coûts sanitaires sont colossaux. Mmh. C'est-à-dire que le lait pas cher, n'oublions pas, nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher ne coûte très cher pour que l'eau potable ne soit pas riche en atrazine. Et c'est que des milliers de choses comme ça pour lesquelles le coût n'est pas dans le prix du produit. Or, le lobby, ils savent jouer sur le coût du produit. On oublie les coûts cachés, les externalités négatives, disent les économistes. Ça, faut qu'on arrête ça. J'aimerais que les représentants élus, les administrations aussi, écoutent un peu plus, et les scientifiques et les paysans.
Marc Dufumier, agronome et biologiste, et bavard également, vous l'aurez remarqué. Merci à lui de nous avoir donné un peu de son temps à l'issue d'une conférence suivie de nombreuses rencontres et de nombreux échanges avec un public attentif. C'était le 18 septembre dernier à Jaugeac, au parc naturel régional des Monts d'Ardèche. L'onde curieuse est à présent terminée. Aujourd'hui, sur les ondes de fréquence 7, vous allez retrouver à 15h le Telex. Je vous invite à laisser vos messages au 04 75 93 30 25. À 16h aujourd'hui en Ardèche, chronique avec le département de l'Ardèche. À 17h, cette émission en rediffusion, suivie à 18h de Polémics et la voix off. Et en soirée, deux rendez-vous musicaux qui vont vous faire bouger les zygomatiques. Salut à toi, c'est à 20h, Metal Zone à 21h. Nous, on se retrouve jeudi pour parler une fois de plus d'agriculture. Nous serons à Prades pour découvrir un projet de maraîchage pour lequel un crowdfunding a été lancé. Alors à jeudi, 12h ou 17h.